Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et le lundi, c'est Ferry dans Esprit Libre. Bonjour oui. Luc.
Bonjour,
puisque vous êtes manifesté avant même qu'on commence à discuter.
Sur J'aime le poulet, oui, je maintiens ce que j'ai dit.
Bon, moi j'aime
c'est
Jacques
pas bon pour le poulet.
Luc, on a découvert ce matin un peu interloqué qui avait eu lieu à Roissy, à l'aéroport de Paris, une prière collective, prière musulmane, qui a immédiatement fait bondir le directeur, enfin le président d'aéroport de Paris.
Augustin de Romanet,
je voilà, je oui. pense qu'on va évidemment reparler d'ici demain et dans les heures qui viennent. Mais cette notion de prière collective, la prière, ça peut être collectif, mais ça peut être aussi très intériorisé. Que dit le philosophe là-dessus ?
Alors, c'est plutôt la théologie. C'est-à-dire que les prières de rue, on en a beaucoup parlé déjà en islam. Elles sont très présentes dans certains quartiers, comme on sait. Et c'est totalement inimaginable dans la chrétienté. Pourquoi c'est inimaginable dans la chrétienté? Pour des raisons qui sont tout à fait passionnantes. C'est que la religion chrétienne est à 100% une religion de l'intériorité. J'ai un ami qui était un grand prof de droit à Tunis, Yad Benachour, et qui me disait toujours, vous, de culture chrétienne, vous avez une grande chance, contrairement à nous, de culture de l'islam, c'est qu'il y a zéro juridification de la vie quotidienne dans le christianisme. Il y a un exemple qui est magnifique, c'est peut-être le plus beau dans les évangiles, c'est, comme vous le savez, l'exemple de la femme adultère. Les juifs orthodoxes veulent donc lapider la femme adultère, c'est dans la tradition juive et de l'époque évidemment.
Ça
et
se
donc,
fait plus.
Non, ça se fait plus guère. Mais c'est dans la tradition juive de l'époque, on va lapider la femme adultère. Que fait Jésus ? Alors le texte est très précis, on voit Jésus qui se met à l'extérieur du cercle des lapideurs, si je puis dire, et puis il dessine des choses dans le sable, et puis il se retourne vers les juifs qui s'apprêtent à lapider la femme adultère, et il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On connaît tous la phrase, mais ça veut dire qu'il renvoie chaque individu au forum intérieur, à la conscience. Zéro juridification de la vie quotidienne. Dans le christianisme, alors, c'est très tardif, après il y a les histoires du poisson le vendredi, mais ça c'est rajouté par les papes au 19e siècle même d'ailleurs. Mais sinon, il y a zéro juridification de la vie quotidienne, ce qui fait que le christianisme est paradoxalement la religion de la laïcité. C'est ce qui a permis à l'Europe de passer à la laïcité parce qu'on renvoie à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César.
Avec quelques périodes un peu inquisitrice et un peu dominatrice quand même.
Mais ça c'est l'Église, c'est pas Jésus. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une trahison de Jésus par l'Église à certaines périodes, notamment l'Inquisition que vous venez d'évoquer, qui est absolument en opposition complète au message de Jésus, qui est un message exclusif. C'est vraiment une philosophie, une merveilleuse philosophie de l'amour. Moi, je suis pas chrétien, mais je le regrette parfois tellement c'est beau l'Évangile de Jean, c'est une merveille.
Quand on est croyant, Luc Ferry, la prière collective peut aussi avoir des vertus. Peut-être pas dans des aéroports, mais
non, pas public. C'est pas la question collective parce que si vous allez à Lourdes, c'est un endroit pour, mais c'est pas public, c'est ça la différence. C'est l'idée que la religion est une religion de l'intériorité, donc ça n'est pas public, on n'a pas besoin de déborder sur le public pour montrer qu'on est croyant, tandis que l'islam a toujours été une religion conquérante. Les juifs sont séparatistes, je parle des juifs orthodoxes, ceux qui pratiquent la cacheroute par exemple, c'est une religion séparatiste d'une certaine manière.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, je veux dire par là qu'elle est séparatiste au sens où elle n'est pas du tout prosélyte. D'ailleurs, si vous voulez vous convertir au judaïsme, ça prend des années, c'est très compliqué. C'est pas une religion prosélyte. D'ailleurs, on dit qu'il y a 16 millions de juifs dans le monde, c'est très très peu. Il y a probablement 1,8 milliard de musulmans, un peu plus de chrétiens, 2 milliards de chrétiens. En France, il y a 38% de catholiques, 10% de musulmans et 1% de juifs. Et donc, c'est pas une religion conquérante du tout, le judaïsme. C'est une religion plutôt de l'entre-soi, avec justement des règles qui sont, comme la cacheroute, des règles qui sont... alors, ça veut pas dire qu'on invite pas les autres, qu'on est hostile aux autres, mais ce sont des règles quand même de l'entre-soi, si je puis dire.
Il y a des règles aussi dans la religion musulmane.
Bien sûr, mais pas dans le
précis, parfois héritées du judaïsme.
Bien sûr, mais qui sont très proches.
Ouais.
Et du coup, c'est extrêmement difficile pour les juifs et pour les musulmans de passer à la laïcité. Même en Israël, c'est une démocratie, mais pas laïque pour autant. Mmh. Il y a très peu de mariages civils. Je sais pas si ça existe aujourd'hui. Moi, je me souviens d'être allé en Israël à une époque, il y a encore 10 ans, où ça n'existait pas. Voilà. Donc, c'est quand même une, encore une fois, une société pensée quand même religieuse d'une certaine manière. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la chrétienté. Et l'Europe est chrétienne, il n'y a rien à faire. Alors après, on peut dire on veut pas afficher le christianisme parce que ça exclurait les autres. Mais le passage à la laïcité, c'est vraiment le fait fondamental du christianisme qui a permis le passage à la laïcité parce qu'il n'y a pas de juridification de la vie quotidienne et parce qu'on renvoie chaque individu à son forum intérieur. Donc c'est une très grande qualité, si je puis dire, du christianisme pour le passage à la démocratie laïque.
Luc, nous avions un programme, mais bon, dans la conversation, il est souvent malmené. J'ai une autre question philosophique à vous poser qui est directement liée à une question pratique qui m'a été posée hier, oui, et je vous ai posée à mon tour. Hier, un de mes proches m'a dit « Veux-tu aller à l'ambassade d'Israël, donc demain mardi 11h, pour visionner le film des massacres du Hamas perpétré le 7 octobre dernier ?» Alors, j'ai vu une partie infime de ces films et j'ai fermé la vidéo immédiatement, oui, tellement c'était atroce, oui, et insupportable. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous iriez, vous, Luc Ferry, non, regarder le mal en face?
Non, non, je ne peux pas, je l'avoue lâchement. J'ai reçu ces films, je les ai reçus, on me les a envoyés, donc j'ai écouté des journalistes qui les ont vus et qui ont décrit très précisément ce qu'il y avait dedans, mais je ne veux pas les voir. J'ai vu une fois dans ma vie en Allemagne, quand j'étais étudiant en Allemagne, un film qui montrait ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie. Il y a notamment une image dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est une vieille dame qui a des cheveux longs, blancs, et qui est tirée par ses cheveux, par terre, par des nazis qui s'apprêtent à la massacrer à coups de crosse. Et donc, je me suis juré dans ma vie de ne plus jamais revoir des images de ce type, parce que ça vous reste gravé dans le cœur et dans l'esprit, et on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, je sais ce qu'il y a dans ces films, je pense que c'est très important, je pense que ça a la raison de les diffuser, c'est très important qu'on sache ce qui s'est passé, comment sont morts ces 1400 victimes de la barbarie et de la saloperie du Hamas, mais j'ai pas envie de me mettre ça dans le cœur et dans la tête parce que ça ne m'apportera rien d'autre que de m'empêcher de dormir. Déjà, cette image que je viens d'évoquer du ghetto de Varsovie, je vous assure qu'elle m'a empêché mais 10 000 fois de dormir. Je me réveille à 4 heures du matin et je revois cette image et je peux pas dormir.
Question philosophique, je sais pas si c'est une question du bac ou de l'agrégation de philosophie, faut-il regarder le mal en face pour faire face au mal?
Alors ça dépend ce qu'on appelle le mal. Moi, dans mes livres, j'ai toujours fait une distinction qui me paraît absolument fondamentale entre faire du mal et faire le mal. C'est pas la même chose. Mon chat, quand il attrape une souris, il fait du mal à la souris. Ou quand il attrape un oiseau, il fait du mal à l'oiseau. Mais je pense pas qu'il soit diabolique pour autant. Tandis que le diable, dans la théologie chrétienne, qui est très intéressante, hein, la théologie du diable est tout à fait passionnante, d'ailleurs, dans cette théologie, le diable, c'est pas celui qui fait du mal, c'est celui qui prend le mal comme projet. Je viens de publier une bande dessinée qui met en scène le premier Don Juan. Vous savez, le premier Don Juan, il est inventé, ce personnage, par Tirso de Molina, qui est un moine espagnol du 16e, 17e. Il est à cheval sur les deux. Et Tirso de Molina, en fait, le Don Juan de Molière est un libertin. Au fond, c'est un 68ard avant la lettre. C'est quelqu'un qui, voilà, il fait du mal, mais il prend pas le mal comme projet. Tandis que le Don Juan de Tirso de Molina est beaucoup plus profond. C'est un personnage diabolique. La sexualité, il s'en fiche. C'est pas, il aime le plaisir, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est faire du mal aux femmes, les séduire et les abandonner pour leur faire du mal. Et c'est un personnage évidemment diabolique, c'est pas pour rien qu'il est inventé par un théologien jésuite en l'occurrence. Mais le confondez pas avec le jésuite Molina qui est le jésuite de Pascal, hein, c'est avant. Et c'est très intéressant de faire cette différence entre faire du mal et prendre le mal comme projet. Et ce qui est très fascinant dans toutes les guerres finalement, mais dans cette affaire du Hamas, c'est très particulier parce qu'on ne s'y attendait plus.
Et le Hamas lui-même ne prétend pas faire le mal, même quand il diffuse les vidéos de ses propres méfaits. Il poursuit un certain bien, paradoxalement.
Non, parce qu'il y a dans la... Non, je pense qu'il prend le mal comme projet. Pourquoi ? Parce que dans les politiques de terreur, il faut prendre le mal comme projet parce que sinon vous ne terrorisez pas les gens. Les gens oublient toujours que dans terreur, il y a peur. Enfin, le but, c'est l'arme du faible contre le fort d'une certaine manière. Et le but des politiques de terreur, bah, c'est de terroriser, comme le nom l'indique. Et si vous ne prenez pas le mal comme projet, si vous ne mettez pas un bébé dans un four, par exemple, ou si vous n'éventrez pas une femme enceinte, eh bien, vous n'allez pas terroriser un maximum de gens. Et donc, du coup, vous prenez le mal comme projet.
Le mal est un point de passage obligatoire l'histoire voilà. pour le terrorisme.
Il y a quelque chose de démoniaque dans le terrorisme. Je ne suis pas croyant, évidemment, je ne crois pas à l'existence du diable, mais je pense que la philosophie du diable est très profonde. Il y a dans les humains cette capacité d'amour, de générosité formidable, sœur Emmanuel, voilà, mais il y a aussi cette capacité du mal. C'est pour ça qu'on a inventé le personnage du diable. C'est parce que les humains, contrairement aux animaux, contrairement à mon chat, les humains sont capables de prendre le mal comme projet, et c'est pour ça qu'on a inventé cette théologie du diable, qui est très profonde en vérité. Et on a beau séculariser, on a beau essayer de contextualiser, d'expliquer le mal par le contexte sociologique, biologique, etc., le discours des avocats, bon, ah, mon client n'est pas responsable, il a eu une enfance malheureuse, voilà, on essaye d'expliquer le mal, mais la vérité, c'est qu'il y a en nous, la possibilité de la saloperie la plus immonde qui soit, du démoniaque. Et c'est en chacun d'entre nous. La civilisation a été inventée pour combattre ça.
Luc Ferry, dernière question, en forme de pirouette et de boutade. Faut-il se tenir au programme qu'on a prévu ?
Quoi, vous parlez en politique ?
Ah non, par rapport au programme de la discussion
non,
qu'on avait prévu,
nous sommes comme Jacques
qu'on
n'a
pas respecté.
Nous sommes comme Jacques Dutronc, nous nous tenons à rien. Moi j'aime beaucoup son fils qui est venu jouer de la guitare chez moi et qui est merveilleusement doué, incroyablement talentueux et aussi sympathique que son papa.
Bah, vous avez de la chance si Thomas Dutronc vient jouer de la guitare chez vous. Luc Ferry, c'était l'Esprit Libre du lundi, Radio Classique 8h56.
Je salue mon ami Franck.